voilà, à mon tour de vous saluer les uns et les autres. Je ne donne pas la définition de l'espérance en théologie, mais une définition. Et il faut toujours se souvenir qu'en pensée systématique, c'est toujours une tentative d'explication, correctible. Hein. On m'a demandé de traiter la question de l'espérance en théologie. J'aimerais vous rappeler que les 5 et 6 septembre, pub courte, à l'IBN, à Nogent, il y aura un colloque de l'AFET. AFET, ça veut dire Association francophone des étudiants en théologie évangélique.
Association francophone
européenne de théologie évangélique. Et le sujet, c'est l'eschatologie dans la réforme du XVIe siècle. C'est juste pour vous dire, c'est un sujet où il n'y a pas consensus, mais où, dans la réforme protestante, au moins, on cherche à dégager des écritures une définition. Je le dis parce que dès qu'on aborde un sujet comme l'espérance en théologie, il faut que vous sachiez, il y a une histoire de l'interprétation de l'eschatologie en théologie. Ce ne sera pas mon propos ici. Ce n'est pas mon propos non plus de donner le contenu d'un cours d'eschatologie, c'est-à-dire de la doctrine des fins ultimes, et de la manière dont ça saisit le vivant et le croyant et l'espérant aujourd'hui. Je me limiterai à essayer de définir et de définir les termes, de relever un peu des éléments du contenu de ce qui est à espérer, et puis d'en saisir les enjeux. Il y a eu un colloque de la World Evangelical Fellowship de Study Group on Eschatology en 2001 à Bangalore, où ils ont conclu leur colloque en disant « l'espérance touchant les fins dernières ou les finalités dernières, l'espérance eschatologique fait intégralement partie d'une vision chrétienne du monde. C'est la raison pour laquelle elle doit devenir la perspective. » Ce n'est pas une voie de garage, comme on a entendu, hein. C'est au contraire l'inverse d'une voie de garage. De devenir la perspective et le cadre de notre pensée, ils se décrivent comme des chrétiens évangéliques, hein. Le cadre de notre, chrétiens évangéliques, pensée, de notre action et de nos prières. Que ton règne vienne ici. Hic ad nunc. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons relever les défis du présent en rapport avec l'avenir. J'ai trouvé la conclusion de ce colloque stimulant au-delà du verbiage des phrases. Il y a de très bons livres. J'ai trouvé un vieux livre de René Laurentin, « Nouvelle dimension de l'espérance ». Vous voyez que le livre n'est pas tout neuf. C'est vrai qu'après les années 68 en France, on a repensé le révélé chrétien, et c'est de 72. Il reprend des éléments de littérature et des développements de la pensée. Également, les grands penseurs qui nous aident pour comprendre l'espérance juive à l'heure de Jésus. C'est Pierre Grelot. Ensuite, un des prophètes décédés du protestantisme français, après Blaise Pascal, c'est Jacques Ellul, l'espérance oubliée par les chrétiens, hein, pas juste par le monde et la société. Je pensais à des livres plus récents, pertinents, percutants, bienfaisants pour moi, d'accord, de Tom Wright, W-R-I-G-H-T, Surprised by Hope. Super en théologie. J'ai l'impression qu'il remet mes pendules à l'heure de ce que j'observe dans les Écritures, et en tout cas un bon défi. Plus anciennement, il y a Peggy, 1911, la petite fille Espérance, extraordinaire, un oublié du christianisme quasiment aujourd'hui. Il y a Gabriel Marcel, 1944, Peggy, 1911, Ernst Bloch, 1955, Principe Espérance, repris par Moltmann, un théologien, Jürgen Moltmann, d'origine réformée, 1964. Je ne fais pas l'histoire de l'interprétation de l'eschatologie. Je voudrais juste vous dire, il y a eu des rebondissements, des prises de conscience intéressantes, des relectures de la vieille écriture inspirée et révélée. Ce sujet touche à différents domaines existentiels et majeurs. Quand en homilétique, dans l'art de la prédication, je touche ce sujet, je parle comme du ressort intérieur, ou des fois comme du fourneau le plus profond. Là où je vibre, là où ça me donne envie de vivre. L'espérance est, dira Peggy, la petite sœur de l'amour et de la foi. C'est elle qui me les mène. J'ai trouvé assez intéressant comme manière de voir dans les trois vertus théologales, qui est la foi, l'espérance et l'amour, cette fonction interne à l'espérance. Les attentes dernières et avant-dernières sont entremêlées dans la doctrine de l'espérance. Elle nous aide à traiter les peurs, les angoisses, elle oriente la vie, elle donne l'envie, elle est zèle, elle est jubilation aussi, pour qui sait la considérer. L'être humain confronté à la propre vie, mais également à la propre mort. Et c'est ça l'une des difficultés de la déscience humaine, c'est comment intégrer la notion de mort et donc du sens de la vie dans l'observable d'aujourd'hui. Comment l'intégrer? Selon le témoignage des premiers chrétiens, ils ne crurent a priori pas que ce monde irait de mieux en mieux. C'est un mythe du 19e siècle qui a touché largement toutes les églises, y compris évangéliques, jusqu'aux deux guerres mondiales, après lesquelles c'était évident que le monde n'irait pas de mieux en mieux. Il y a des changements théologiques intéressants, même à l'intérieur même des interprétations des Écritures. Mais les premiers chrétiens ne croyaient pas non plus que ça irait de pire en pire, sauf certains. De telle sorte qu'il faille se retirer de la société, tellement c'est mauvais. Et pour reprendre une pensée de N.T. Wright, du livre dont je vous ai parlé, ils étaient de la conviction que Dieu était en train de faire envers le cosmos, c'est au-delà de l'espérance individuelle, Dieu était en train de faire envers le cosmos ce qu'il avait fait à Jésus, à Pâques. Dans l'espérance juive et chrétienne, on ne doute pas que la création était initialement très bonne. Je crois que c'est important de commencer par là. Qu'elle était initialement très bonne, mais que le mal l'avait corrompue. Pas que la création était mauvaise, mais que le mal l'avait corrompue. Et je crois qu'en philosophie chrétienne, c'est très important de faire la distinction des choses. Et dans une perspective de théologie biblique, la création, comme l'œuvre de libération ou de rédemption, sont l'œuvre d'un Dieu bon, infiniment bon. L'attente était que Dieu libérerait le monde. Ça qualifie le mal. Le mal qui est le problème justement des sciences humaines. Le mal est essentiellement rébellion. Mais le mal n'est jamais matérialité. Il est que rébellion. Mais torsion et de tout, le mal. L'incarnation de Dieu en Jésus, dans les évangiles, vise précisément à ce que ce mal soit guéri. J'utilise un terme, on pourrait dire que le mal soit sauvé. je ne sais pas comment vous le comprenez, mais que le mal trouve une solution. Pour dire là que l'œuvre du Christ, qui est unique dans les Écritures, en ce sens qu'il a vaincu le mal, et qu'il a donc vaincu la mort, c'est pas Moïse qui l'a fait, c'est pas David qui l'a fait, c'est Jésus qui l'a fait dans Théologie chrétienne. Je vous lis un texte de Paul en Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Je parle de Jésus, hein, pas de Superman. Il est le premier-né, autrement dit, le prototype de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, donc ce qui régit, ce qui doit régir en lui, ont été créées, oui, par lui et pour lui. Tout a été créé. Il est lui-même, bien avant toute chose, il ne subsiste, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Qu'est-ce que l'Église, dans l'espérance chrétienne, est une question qui est importante, qu'on pose pas souvent, parce qu'on s'intéresse aux choses dernières, pas aux choses avant-dernières, qui sont comme des anticipations d'une création guérie. On y reviendra. Ce Fils, continue l'Épître aux Colossiens, est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts. Là, on traite la question de la mort, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Donc, l'idée de prototype revient. Premier rang, le chef de file, le grand frère, l'ouverture de brèche qu'il a accomplie. Car c'est en lui, verset 19, que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. C'est pas peu de choses, hein, c'est juste tout. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant le shalom. Je dis la paix parce que la paix, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Juste là, je sais bien que c'est énormément dense, c'est typique de l'apôtre Paul, mais je voulais commencer par cela. La bonne création, mais corrompue, revient par le Christ à l'harmonie avec son Créateur, c'est le but visé de l'œuvre du Christ. C'est plus qu'un tas de sauvés, vous comprenez ce que je veux dire? La différence entre un tas de sauvés, c'est un tas d'individus sauvés. Enfin, j'utilise des images, hein, parce que les images, ça reste. C'est un rachat qui permet que revienne quelque chose du bien vivre ensemble pour tous et dans la durée. Le bien vivre ensemble pour tous et dans la durée, dans la communion de Dieu, ce qui est ma définition du royaume de Dieu. Jésus est le roi. Vous ne pouvez jamais séparer Jésus de son projet qui est le royaume. C'est une des définitions que j'aime donner aux étudiants pour parler simple, que Jésus le Messie est venu inaugurer un lieu où il fait bon vivre pour tout le monde et dans la durée, dans la communion de Dieu. Ce que nos églises devraient être mieux. Ça veut dire que le domaine de l'espérance touche à l'économie, touche à la manière de se considérer, la manière de se parler, la manière de traiter les questions économiques, les questions politiques, les questions de genre, de sexe, etc. De racial, etc. Pour continuer. L'espérance, comme la foi et l'amour, n'est donc pas un sentiment d'abord. mais plutôt une disposition d'esprit, une orientation d'esprit. Les chrétiens ne parlent pas d'espérance de manière isolée. Nous n'adorons pas l'espérance. Sinon, on va devant des déceptions graves, compte tenu de ce que nous sommes. L'espérance chrétienne est ou n'existe pas pour elle-même. Elle n'est que réponse, comme la foi. L'homme n'est pas l'initiateur de l'espérance ou de la foi. L'initiateur est une parole, un projet de Dieu, une action de Dieu, à laquelle le croyant ne fait que répondre. C'est comme la prière, elle n'est que réponse. La foi, elle n'est que réponse. L'espérance aussi n'est que réponse à une initiative dont l'homme n'est pas l'initiateur. L'objet de l'espérance, par conséquent, est plus vaste, mais contient également le pardon des péchés. À mes étudiants en théologie, je dis, faites bien la différence entre les moyens que Dieu utilise et les fins qu'il vise. En doctrine de l'espérance, on court le grand risque de viser les moyens sans voir la fin, c'est-à-dire là où il veut en venir. Le « en vue de quoi » ces doctrines. L'objet de l'espérance est plus vaste que le pardon, toutefois pas sans lien avec le pardon des péchés. Et l'insistance des apôtres, du Christ via les apôtres, de maintenir ensemble création et rédemption me frappe. Et plus je l'enseigne, plus je le vois. L'espérance n'est ni à la portée de l'évolutionnisme humaniste, c'est ce que je suis en train de vous dire, puisque c'est une proposition de Dieu à laquelle on répond. Ni en phase avec le gnosticisme de ceux qui voudraient échapper à la dimension matérielle et corporelle. Ce n'est pas une évasion de la réalité. C'est une transformation de la réalité. Et c'est ce que produit une saine espérance qui n'est pas fondée sur une illusion. Autrement dit, la vie, l'exemple, la mort, la résurrection de Jésus ne se limitent pas à ses effets sur les seuls croyants pris individuellement. Il existe une dimension cosmique de l'espérance chrétienne qui a largement été réduite dans l'histoire de l'interprétation. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas nous qui allons au ciel, c'est le ciel qui vient à nous. C'est ce que j'essaie de vous dire. La question n'est pas comment arriverai-je au ciel, en théologie révélée dans le Nouveau Testament, selon ma lecture. La question c'est comment le ciel arrive sur la terre. Et ça change la perspective. La terre où la justice habite, où la mort ne sera plus. Les cieux à destination de la terre. Si on relit l'Épître aux Hébreux, on est frappé par cette dimension-là, qui est juste l'inverse de ce qu'on croit en général. Ça veut dire quoi? Qu'en théologie chrétienne, on dit que Jésus est la clé, le prototype. L'homme qui, quand il opère sa transformation en nous par son esprit, l'homme qui, quand on le suit, fait qu'il fait bon vivre dans l'univers, pour tous, et dans la durée. Alors, définition de l'espérance en théologie biblique, Dieu a parlé, nous y répondons, nous l'avons dit, c'est une réponse à la révélation divine, mais dans la Bible, l'espérance a une histoire, l'histoire que Dieu n'abandonne pas le monde à sa corruption. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà dit passablement de choses. Après, en théologie biblique, il faudrait reprendre l'histoire de cette espérance. Ça passe par Caïn, que Dieu protège, hein, contre sa propre faute et ses conséquences. Et on pourrait passer, continuer. Nous sommes les rescapés d'une catastrophe cosmique par Noé. Hein. Ça peut aider tous les gens qui dépriment. Hein. On pourrait continuer avec ce Dieu qui veut faire alliance, qui veut libérer le peuple. On pourrait continuer, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais c'est ce par quoi il faut passer quand on réfléchit à la question. Abraham, vous pouvez pas séparer chez lui espérance et foi. Il cherchait une patrie meilleure où il fait mieux vivre que d'une société qui est caractérisée par les divinités. Et même quand il est arrivé sur la terre au passage de Canaan, il cherchait une meilleure cité. Et l'Épître aux Hébreux reprend ce thème. Chercher une cité où il fait bon vivre ensemble, sous le regard de Dieu, pour tous et dans la durée, c'est l'objet de l'espérance. Le point focal, je vous l'ai dit, et central, c'est la résurrection de Jésus-Christ, pour les chrétiens. Parce qu'il est le seul à avoir vaincu la mort, et pas seulement la mort, mais aussi le pouvoir d'influence sur le psyché humain de la mort. C'est ce qu'opère l'espérance, la libération non seulement de la mort, mais également de l'influence de la peur de la mort. La résurrection de Jésus est le pivot de l'eschatologie, a dit le théologien luthérien André Birmelet. Le pivot. Le matin de Pâques, qui proclame que le crucifié est ressuscité, inaugurant une réalité nouvelle où la mort ne limite plus la vie, mais où la vie limite la mort. Bien entendu, ici, on pourrait développer quelque chose au sujet du Christ, qui n'est pas que son œuvre de crucifix, à la croix et à la résurrection, et à l'enseignement. On pourrait dire, notre espérance a comme contenu la parousie, la venue du Christ, d'accord? Je dis aux étudiants en général, si vous focalisez là-dessus, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle. C'est que les croyants qui peuvent imaginer en cliquant sur « retour du Christ » ce qu'il adviendra. Mais il faut dire en même temps que l'espérance chrétienne n'est pas que l'interférence de Dieu par le Christ et par l'Esprit, donc anticipant un grand jour de la venue du Christ, mais il faut simultanément parler de ce que le Christ introduit quand il vient. Et en théologie, on a trop réduit l'espérance à « retour du Christ » sans savoir ce qu'il introduit. C'est-à-dire la guérison pleine et entière de ce cosmos où la mort n'existe plus. Ce qui est justement associé au Christ, l'objet de l'anticipation et de la joie d'anticipation que produit l'espérance. Joie d'anticipation. Ce petit ressort intérieur qui m'aide à aller droit de l'avant dans la joie et qui est indispensable à toute vie chrétienne. Par conséquent, le chrétien n'a pas que le rétroviseur où il regarde le Christ mourant pour lui et ressuscitant en l'arrière, mais il a également, puisqu'il est ressuscité, tout son pare-brise pour regarder de l'avant, pour savoir comment vivre et en vue de qui et de quoi. Le dictionnaire Larousse, je n'en prends qu'un, il y a toutes sortes de définitions, hein, dit « attente d'un bien qu'on désire » pour l'espérance, d'accord ? Attente d'un bien qu'on désire. Et là, il y a un petit problème. Ce que je désire est rarement tout à fait glorieux. Et si je projetais ce que je désire, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à une société où il fait bon vivre devant Dieu pour tout le monde et dans la durée. La projection de mes désirs sont largement plus entachées par la corruption et l'égoïsme que je veux bien l'admettre. Par conséquent, toute espérance n'est pas récupérable dans le projet du Christ. Est-ce que vous arrivez à suivre? Alors, je l'espère, on dit en français, c'est une manière polie de dire probablement ça n'arrivera pas, mais ce serait bien. Hein? Et là, il y a un problème. C'est qu'il y a une utilisation profane de choses que j'espère, et vous trouvez aussi cette dimension d'espérance qui n'est pas une valeur théologique dans le Nouveau Testament. Je donnerai tout à l'heure quelques exemples, mais quand l'Écriture, suite à l'usage de « elpis » en grec, dans les Septante, dit « espérance », elle pense en dimension théologique, c'est-à-dire « je l'espère et je mise tout sur cette espérance parce que Dieu me le promet ». C'est une autre perspective de « je l'espère parce que je projette mes égaux vers l'avant ». Je vous donne deux exemples pour que vous voyez la dimension certaine du contenu basique de la foi évangélique. Il y a deux images utilisées, un par Paul et l'autre par l'Épître aux Hébreux. Écoutez bien, équipez-vous du casque de l'espérance. Ça veut dire qu'on ne l'a pas encore, hein, d'accord ? C'est une attente du salut. Alors vous allez me dire, oh, le même apôtre Paul qui dit, vous avez été sauvés, cela ne vient pas de vous, vous avez été, c'est un accompli, il vous dit exactement dans 1 Thessaloniciens 5:8, équipez-vous du casque, c'est-à-dire, le casque, ce n'est pas la genouillère, hein. Le casque, c'est vous protéger une fonction vitale de la foi. Quelle est cette fonction vitale ? L'espérance du salut. Ça veut dire que quand vous cliquez sur salut, vous avez beaucoup plus que pardon des péchés. Vous comprenez ce que je veux dire ? Équipez-vous du casque de l'espérance du salut. Ou bien, donc c'est juste pour vous dire que la fonction protectrice de l'espérance, c'est une fonction vitale dans la foi. La deuxième image que je prends de l'Épître aux Hébreux, l'espérance proposée est pour vous une ancre. Un ancre, c'est quelque chose de fixe quand tout bouge. D'accord ? Et l'Épître aux Hébreux s'est fait précisément dans un contexte où c'était très difficile. Équipez-vous, l'espérance proposée pour vous, une ancre de l'âme. Et après, il dit, bien fermement fixée. Autrement dit, c'est quand il y a la tempête qu'on a besoin de l'espérance. Particulièrement. Ou que ça se voit. Ça ne se voit pas quand tout va bien pour les chrétiens. La foi ne se voit pas bien, puisque c'est facile. Mais quand on est en butte à une opposition, quand on est minoritaire, quand il faut faire du contre-culturel, dans certains cas, eh bien, l'espérance aide à tenir. Elle est fermement ancrée. Donc, ce que je vous propose, c'est de compléter le Larousse, et en théologie, et de retenir que l'espérance est attente d'un bien promis par Dieu. Et elle est fixe parce que ce n'est pas moi qui projette, c'est Dieu qui propose et dit que cela arrivera. Le professeur Samuel Benetro avait une belle formule dans ce commentaire de l'Épître de Pierre, qui disait « L'espérance sans assurance n'est que future désespérance. » Aidez-moi. On a
jusqu'à 10h45.
Ça va pour vous ?
Oui.
Vous suivez ?
Oui.
Je ne vais pas trop vite. Je vous dis ce que je pense être utile. Hein. Le théologien John Yoder, je crois, donne une dimension, définit une des fonctions de l'espérance. Très fortement, en disant, espérer, c'est la manière la plus forte d'exprimer une certitude. Vous pouvez dire, je crois, ça ne change rien. Mais quand vous espérez, vous êtes en mouvement, vers quelque chose. Espérer est la manière la plus forte d'exprimer une certitude. Une attente tellement assurée. Écoutez bien, parce que ça touche toute l'éthique chrétienne. Qu'on accorde sa vie sur elle. L'éthique n'est pas que fondée sur la révélation de la morale passée, mais également sur les biens promis à venir, parce qu'il s'agit en éthique de vivre au diapason de ce qui vient. En théologie biblique, il n'y a pas que du grec. Dieu s'est révélé à des gens qui nous l'ont transmis en hébreu, hein, d'accord ? Et puis là, on est un peu embêté. C'est que l'hébreu utilise quasiment pas d'abstraction, vous le savez, hein. La sanctification, c'est typiquement pas hébreu. Hein. Vous savez, ces abstractions. Mais l'hébreu aime décrire des actions, des événements concrets. La concrétude de l'espérance, j'en ai déjà parlé, je ne la lâcherai pas. Hein. Le substantif elpis, en grec, l'espérance, est absent des évangiles. Probablement que Jésus n'a pas utilisé ce mot. Il a d'autres manières pour parler de la même chose. Le verbe elpizein, espérer, a un sens profane, je vous l'ai déjà dit. Hein, espérer recevoir de l'argent, c'est rien de théologique. Hein. Ouais. Si vous prêtez seulement à ceux que, dont vous espérez être remboursé, quelle reconnaissance vous doit-on ? Là, il n'y a pas de dimension théologique. Il y a ce que l'humain peut espérer au sens profane dans Luc 6, 34, où Hérode qui espérait voir faire par Jésus quelques miracles. D'accord ? Il y a une dimension. Mais, dans l'Ancien Testament, El Pizzo traduit dans la Septante un ensemble de verbes hébreux. J'essaierai maintenant juste de vous dire de quel verbe il s'agit, pour que vous voyez qu'en un mot grec, il y a un ensemble de mots hébreux, kawa, attendre, espérer, attendre, mais aussi bata, avoir confiance, en. Tout ça traduit par elpis, elpizo. Yahal en hébreu, attendre quelqu'un, ou bien haka, attendre avec confiance, ou asa, se confier en quelqu'un, trouver un abri en. Tout ça, c'est traduit par un mot qui est espérance. Et dans le grec profane, elpis, elpizo, je vais faire court là-dessus, c'est surtout attendre, escompter, penser, supposer. Alors, dans les Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament, il y a cette nuance qui est prépondérante, qui est importante. Il s'agit de se confier en Dieu, avoir recours en Dieu, mettre son espoir en Dieu, dans l'utilisation. Cette espérance, dans la théologie juive et chrétienne, est toujours une espérance en cours de réalisation. C'est jamais un but lointain qui n'a pas d'incidence sur le présent. Oscar Kuhlmann est un théologien qui a introduit la notion de déjà et pas encore et a beaucoup réfléchi à cette tension entre pas encore, mais le déjà. Et il a utilisé une image que vous connaissez peut-être, celle du débarquement des forces alliées contre le nazisme. Il a parlé du jour des débarquements. Mais il a dit, si les forces de libération ont débarqué, ça ne veut pas dire que le jour V est déjà, de la victoire, est déjà acquis. Et j'aime cette tension parce que c'est précisément cette dimension qu'une force est en marche vers un jour V. D'accord ? Je ne veux pas dire que nos forces en marche sont militaires. D'accord ? Surtout pas moi. D'accord ? Je me sais encore un disciple de Jésus et pas du général MacArthur. Ouais ? Alors je reviens en arrière, même s'il est chrétien. Ce qui est important, c'est de voir que la fonction de culte, quand ça va mal, comme par exemple dans l'épître de l'Apocalypse, selon Jean, la fonction du culte de l'agneau est précisément ce qui va aider à tenir contre ce qui régente le monde d'alors, qui était précisément une culture idolâtre du pouvoir. Ce qui aide contre les forces monstrueuses, les chrétiens du 1er siècle, dans la province romaine d'Asie mineure, c'était précisément cet énorme et récurrent culte de l'agneau, de Dieu et de l'agneau. La fonction du culte est de restaurer l'espérance de ceux qui sont en marche. C'est un passage du Christ, c'est une intervention du Christ. Et il me plaît de voir que le Christ intervient plutôt qu'il ne vient qu'une fois dernière, au dernier moment. Vous le voyez se promener, du reste, dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse, au milieu d'une situation concrète, prenant soin particulièrement de l'Église pour qu'elle reste fidèle. D'accord ? Je vous rends juste attentif à cette dimension. Je ne veux pas exclure qu'il ne revienne pas personnellement et en gloire comme l'enseigne le Christ, mais en attendant, il intervient. Et c'est cette dimension de l'espérance qu'il nous faut garder en tension avec son intervention finale contre les forces de la mort elle-même. Espère en Dieu. La véritable révolution sémantique, je vous l'ai dit, est opérée par les Septante, qui donne à Elpidzein Elpis une valeur strictement religieuse. Ce n'est pas que projection des désirs, c'est Dieu qui promet, et ça change quelque chose. Donc toujours orienté vers Dieu, ce n'est plus une attente quelconque, mais une confiance sûre et certaine en Yahvé. Elle est plus foi que vertu. J'essaie de vous le dire. Elle n'est pas née en nous pour provoquer Dieu dans sa bénédiction. Elle est proposition de Dieu, engagement de Dieu et réponse humaine. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, et ça ne date pas de Paul, sont concernés pas seulement Israël, mais d'abord Israël, première détentrice d'une révélation de l'intervention bienveillante de Dieu qui aime faire alliance avec un peuple, mais également les îles, les confins de la terre. Je vais vite, les psaumes et Ésaïe en sont pleines. La terre est concernée. Et là, je vais me faire des ennemis maintenant, tant pis. Quand Dieu choisit et qu'il élit des particuliers, c'est toujours en vue du tout. Vous m'avez entendu ? Je reviens en arrière. Israël affirme le bonheur de l'espérance fondée sur ce Dieu-là, pas sur n'importe quel Dieu-là. Ce Dieu-là. Heureux celui dont l'espérance, l'espoir est en Yahvé, son Dieu. Psaume 146, verset 5. Heureux l'homme qui espère en toi. Psaume 85, 12. Béni l'homme qui se fie en Yahvé. Le Seigneur est son espérance. Jérémie 17, on pourrait passer. Donc, l'espérance est confiance. Bien malin celui qui saura distinguer nettement entre la foi et l'espérance dans la théologie biblique. Quand Paul est enchaîné à cause de l'espérance d'Israël, acte 28, 20, c'est intéressant comme formule. C'est quoi l'espérance d'Israël? Alors là, je suis sûr qu'on aurait toutes sortes de tableaux différents, certains mélangeant les moyens avec la fin. Je vous l'ai déjà dit, comme pathologie de la théologie systématique, c'est assez récurrent. Mais Paul est héritier fidèle de cette langue des Septante et cette espérance-confiance, cette foi. Dieu, en qui nous avons mis notre espoir, eis on elpikamen, nous délivrera. Dieu, en qui nous avons mis notre espoir, nous délivrera, vous-même apportant votre assistance pour nous par la prière. 2 Corinthiens 1, 10. J'essaie juste de vous montrer comment Paul utilise cette dimension d'espérance pour cette situation concrète déjà, en attendant ce qu'il est promis pour plus tard, lorsque Dieu sera tout en tous. Pardon, tout en tout, c'est un neutre. C'est plus qu'un tas de gens qui est objet de l'espérance. Certainement, nous en entendrons encore parler cet après-midi lorsqu'on parlera d'écologie. Dans 1 Corinthiens 15, 19, on voit même que le Christ médiateur est substitué à Dieu comme fondement de l'espérance. Je vous lis. Si nous sommes que des gens qui espérons en Christ dans cette vie seulement, nous sommes les à plaindre plus que tous les hommes puisque nous serons frustrés de l'essentiel, un bonheur futur. Et il conclut, c'est pour cela que nous peinons et que nous luttons parce que nous avons mis notre espoir dans le Dieu vivant qui est sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. 1 Timothée 4, nous avons mis notre espoir dans le Dieu vivant. Le verbe au parfait, nous avons mis notre espoir, nous avons mis, signifie que l'espérance est immuable et source de tous les efforts. Cette espérance, et là je vais faire très court, je voudrais juste l'avoir dit, est par conséquent expérimentale dès à présent. Elle touche le vivant. Elle oriente le vivant. Elle est source d'obéissance plus qu'on ne l'imagine. Par exemple, dans Romains 5, 5, « Parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Autrement dit, le Saint-Esprit est le grand anticipateur d'une création guérie. Création guérie, c'est une de mes formules que je vous propose, puisque la création est toujours dans le coup, d'accord ? J'ai essayé de vous le dire. La création espère. Il n'y a pas que nous, mais elle aussi. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Des, autrement dit, des gens qui la traitent bien. Romains chapitre 8. Ce que je vous dis au sujet du Saint-Esprit est assez intéressant. On ne sait pas où ranger l'eschatologie. On la met en général à la fin d'un tout un grand cursus théologique. Moi, j'aurais préféré la mettre au début. Parce que la doctrine de l'espérance traite de la question « en vue de quoi ?» Or, traiter toutes les doctrines et n'aborder qu'à la fin « en vue de quoi les doctrines sont faites ?» C'est à mon avis pas très malin. Pourquoi est-ce qu'on met tout à la fin de la théologie systématique la doctrine de l'eschatologie? Je ne vois pas pourquoi. Sauf que lors de la chrétienté, on a oublié cette dimension de la chrétienté. On croyait que le royaume était là puisque l'empereur était devenu chrétien. Et c'est qu'au XIIe siècle qu'on a inventé ces De Novissimus, qui veut dire des nouveautés qui sont encore à attendre, de la vie nouvelle qui est à attendre. On a réintégré, après le Moyen-Âge, cette doctrine, mais on l'a mise tout à la fin. Ensuite, la doctrine du Saint-Esprit. C'est autre chose de penser qu'il est un esprit religieux qui va nous animer notre religiosité interne, que de penser que l'Esprit-Saint est le grand anticipateur des choses de la fin. L'Esprit-Saint est toujours dans le coup, dans les écritures judéo-chrétiennes, lorsque il y a une guérison, lorsqu'il y a du nouveau, lorsqu'il y a une création, lorsqu'il y a une recréation. Et nous attendons de l'Esprit-Saint, dont nous avons reçu les arts, c'est-à-dire une petite partie du tout, tout le paquet, et de l'Esprit-Saint. Ce qui veut dire que, quand vous rangez la doctrine de l'espérance quelque part, vous savez pas où vous la rangez, vous la mettez dans la christologie, ou vous la mettez dans la doctrine du Saint-Esprit. Mais vous, de déconnecter la doctrine du Saint-Esprit de l'eschatologie de la doctrine de l'espérance est plus néfaste qu'on le croit. Parce qu'on sait finalement plus ce que le Saint-Esprit est censé faire. Je reviens en arrière, en parlant simplement de cette dimension expérimentale. L'espérance est donc comme une source qui jaillit. Nous vivons dans un temps de sécularisation, vous le savez. À Genève, où j'habite en ce moment, c'est galopant. C'est énorme. La cité de Calvin, c'est juste encore pour attirer les touristes. On vit dans un temps où la conception de l'histoire ou de l'espérance, on a tous un discours sur l'espérance. Mais l'espérance ultime sont comprises de manière séculière, c'est-à-dire sans discours sur Dieu. C'est pas étonnant, vous prenez les bouquins de science, vous voyez comment notre monde disparaîtra. Et vous parlez des dinosaures, et vous parlez de ce qui va tomber sur la Terre, et puis des tsunamis, et puis des trous noirs. Et c'est intéressant, moi ça me passionne, d'accord? Mais et c'est intéressant aussi de voir que quand on évacue Dieu, la transcendance, on repense cette manière, l'avenir, les fins de la vie, le surgissement des météorites, etc. Et l'histoire et eschatologie ne font plus que histoire et science. Et science encore réduite à un discours qui n'intègre pas la question de la mort et de l'au-delà. D'accord ? Puisqu'on ne peut pas avoir de discours dessus. Pourtant, l'espérance séculaire nous intéresse, L'espérance chrétienne n'est pas déconnectée à l'observable. Elle doit rester connectée. Mais notre chance, c'est de redire l'histoire de l'espérance, l'histoire de l'apparition des thèmes liés à l'espérance, l'histoire de Jésus dans une société qui est en recherche de sens. En confessant aussi nos péchés, nos manques de cible, notre culpabilité, notre culture est très cynique. Je vais parler du cynisme courtement. Je sais que je n'ai pas à le traiter, ce n'est pas mon sujet principal, mais je sais que Coëlette, par exemple, la prédicatrice, l'ecclésiaste, le traite, sauf qu'elle est moins cynique que nos contemporains. Une fois qu'on a évacué le discours sur Dieu, il n'existe pas de sens ultime des choses. Le bateau coule, on peut danser, mais c'est une danse macabre, on est bien conscient. Et on joue beaucoup, en France et à Genève, particulièrement, à Show Must Go On. Vous connaissez ? J'étais jeune en ce temps-là, j'aimais bien, sauf que c'est lugubre. Il savait qu'il avait le sida, et il a chanté « Show must go on ». Et en ce temps-là, le sida, c'était synonyme de mort, hein, on n'avait pas encore. Hein. L'apparence va continuer, mais au fond de soi, on pallie à ce manque de sens avec toutes sortes de choses qui sont moins glorieuses. Ce n'est pas mon sujet de le développer maintenant, mais comment intégrer la mort dans l'espérance ? La question de l'injustice qui dure, des choses pas acceptables. Comment intégrer la vieillesse des gens, le sens de ce que je vaux quand je ne travaille plus ? Moi, je pense qu'on a une super chance d'avoir une espérance qui traite la vie dans son entièreté. Alors, le cynisme, c'est quoi ? Je pense que c'est un mécanisme d'autoprotection. On devient cynique parce qu'on n'a pas le choix d'autre chose. Un mécanisme de défense dans lequel une personne qui a été déçue, blessée, désabusée, se protège de toutes sortes d'autres blessures possibles, de toutes sortes d'espérances fausses. Alors, le cynique, il procède de la manière suivante, il dit que tout espoir n'est qu'une forme d'aveuglement. L'une des résultantes, c'est qu'on consomme du loisir. C'est qu'on s'abrutit avec le travail. C'est qu'on oublie. On trouve des pathologies. On trouve des remèdes à nos pathologies. Je sais que l'image que je donne est certainement trop exagérée. Mais je vous le donne quand même. Je pense que c'est une philosophie où quand on évacue Dieu, on ne se rend pas compte par quoi on le remplace. Et ce par quoi on le remplace est infiniment dévastateur. C'est malfaisant et déshumanisant, où chacun fonctionne pour lui-même, sans solidarité. Même Coëlette n'arrive pas à ses conclusions, car lui, au moins, il sait se réjouir des joies simples, hein, ce que le cynisme a oublié de faire, des joies simples. Et la seconde, c'est qu'il sait encore que toute œuvre sera vouée au jugement. Autrement dit, devoir rendre compte. Donc, je pense que le cynisme, c'est un pis-aller qui vient d'un refus d'une vérité, celui de croire à une phrase simple, basique de l'espérance chrétienne, qui dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. C'est minimum, non ? C'est une la palissade. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. L'espérance se nourrit de cette foi-là. Pas seulement s'approcher de Dieu, mais que c'est un Dieu particulier qui récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Alors, je conclue. Ce qu'on est en droit d'espérer, c'est le pardon de nos péchés, à cause de l'œuvre du Christ, substitutive et expiatoire. Je l'ai dit, c'est basique. Le Christ est vivant, ce qui l'intéresse, ce n'est pas que nous restions sauvés, mais c'est que nous prenions toute la dimension du salut dans l'espérance et la certitude de ce qu'il nous a promis. Une des questions posées à l'Écriture, c'est comment trouverai-je, un Dieu miséricordieux ? D'accord ? Vous pouvez développer ça. Et vous pouvez aussi développer l'autre question à poser aux Écritures judéo-chrétiennes, c'est pour ça que je vous ai dit, méfiez-vous de moi, ce n'est qu'une perspective théologique sur l'espérance, d'accord ? L'autre question théologique, c'est comment Dieu interviendra-t-il pour faire émerger un monde plus juste ? Et j'aimerais juste vous dire, l'Écriture vous répond différentes choses en fonction des questions que l'on a préalables. Je termine avec ceci, l'espérance touche tant le présent que le futur, et je termine avec une parole de Jésus, juste pour rappeler cette dynamique de l'espérance, pas que dans un monde futur, mais également dans un monde futur qui affecte le présent et qui oriente le présent. C'est tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 29 à 30. Personne, dit Jésus, n'aura laissé une certaine dimension du confort. D'accord ? Ce après quoi on court tous. D'accord ? Personne n'aura laissé un bien, je fais court, à cause de moi, écoutez bien, et à cause de la bonne nouvelle, juste pour qu'on ne sépare pas Jésus de son règne, la bonne nouvelle c'est que le règne a fait irruption puisque le roi est venu, d'accord ? Quand Jésus évangélisait, il a dit « Le royaume de Dieu s'est approché. » D'accord ? Le contenu, ce n'est pas d'abord que Jésus, c'est Jésus qui introduit une nouvelle réalité. Je reviens. « Personne n'aura laissé à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sans recevoir au centuple. » C'est un bon investissement, hein, 100, 1 sur 100. Hein, moi, je suis à Genève, hein, n'oubliez pas. 1 sur 100. Personne ne fait mieux. N'aura laissé, alors, sans recevoir au centuple, et après la précision de Marc, elle est super, écoutez bien, maintenant, et la deuxième précision, c'est en ce temps-ci, pour que surtout on ne se croit pas que c'est dans l'avenir, hein. Vous y êtes ? Il retrouvera les biens, d'accord ? Oui, après, je viens quand même, hein. Oui. Je viens. Patience. Et précisément, la patience, c'est ce que produit l'espérance. L'endurance, la patience, à bien faire. Parce qu'on peut aussi être patient, à mal espérer. Avec des persécutions, c'est-à-dire en but à l'hostilité. Parce que le royaume de Dieu est en but à d'autres manières de vivre. Et Jésus, d'après Marc chapitre 10, continue... Et dans le monde à venir, ce qui est typique d'une manière juive de concevoir ce monde et le monde à venir, hein, paulinienne, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et éternelle n'est pas d'abord un symbole de durée, mais un symbole de qualité. J'aimerais vous remercier d'avoir suivi ce discours sur la théologie, sur l'espérance en théologie biblique.